Bonjour à toutes et à tous, Fabien du Cinéma Le Bourguet, Cinéma Récé de Fort Calquier. Je vous parle de la semaine cinéma du 27 mars au 2 avril. Le printemps est installé, le festival numéro 0 se profile, vous le savez, du 17 au 21 avril. Le programme est disponible, nous vous invitons à le découvrir et à prendre part avec nous à ce merveilleux festival organisé avec la Miroiterie. Ce sera à Fort Calquier et à Saint-Étienne-les-Orgues. Pour l'heure, donc, la semaine cinéma du 27 mars au 2 avril, avec trois séances spéciales même, on y revient en fin d'émission. On commence avec un film attendu du moins par les aficionados du genre et de l'œuvre, sans doute, mais peut-être plus largement encore, puisque le film est un énorme succès. D'une deuxième partie a même dépassé au box-office la première partie, film signé de Denis Villeneuve, une troisième partie est d'ores et déjà attendue. Et Denis Villeneuve, ben c'est intéressant de se pencher un petit peu sur le parcours de cet homme-là. Cinéaste, moi je me souviens de ce cinéaste canadien apparu à la fin des années 90 avec un premier long-métrage qui s'appelait Un 32 août sur Terre, qui était un peu passé inaperçu, et puis les films suivants le sont encore passés davantage. Maelstrom, Polytechnique, et c'est en 2010 avec Incendie, film assez remarquable d'après la pièce de Wajdi Mouawad, qu'on va prêter une attention nouvelle au travail de Denis Villeneuve. Il est aussitôt repéré par Hollywood et réalise en une même année 2013 Prisoners et Enemy, qui étaient plutôt des polars, thrillers réussis dans leur genre, Sicario aussi en 2015. Et le passage à la science-fiction se fait avec un film remarquable qui est pour moi non seulement l'un de ses meilleurs, mais sans doute l'un des meilleurs films de science-fiction, moi qui ne suis pas un amateur forcément du genre, quoique toujours très intéressé. Ce film-là, c'est Premier Contact en 2016, et c'était un très beau film avec notamment une représentation de l'être extraterrestre, pour le dire comme ça, qui était assez inédite et très belle, graphiquement très belle. Et cette dimension visuelle, plastique de son travail, explose dès lors que les moyens lui sont donnés, et il est plus qu'aucun autre à Hollywood aujourd'hui capable de tirer le meilleur parti de moyens exponentiel de film en film. C'était le cas avec Blade Runner 2049, mais ça l'est plus encore avec cette suite, puisque déjà, je vous le disais, un troisième volet est prévu, Dune, qui est donc l'adaptation à laquelle personne s'était risqué depuis l'échec, en tout cas commercial, de David Lynch en 1984. Dune, donc, c'est le roman de Frank Herbert, publié en 1965, et depuis est devenu évidemment et très vite un livre culte, extraordinairement vendu de par le monde, et c'est tout un univers qu'Hollywood cherchait évidemment à investir, et pour cela était prêt à investir beaucoup de moyens. C'est chose faite avec ces films donc, de Denis Villeneuve, qui sont très réussis visuellement, même les scénarios sont vraiment très intéressants dans le développement qui est le leurre des personnages créés par Frank Herbert. Visuellement, c'est superbe, musicalement aussi, d'un point de vue sonore, c'est très intéressant. Et cette deuxième partie, donc, elle est programmée à Fort Calquier en VO et en VF. On s'efforce toujours, y compris pour les blockbusters et a fortiori, s'agissant de ceux-ci, de vous proposer des versions originales. Donc, 5 séances sont prévues cette semaine, 3 en version originale et 2 en version française. Donc, Dune, deuxième partie. Vous le savez, hein, c'est avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, qui est un excellent acteur, Florence Pugh, qui est une excellente actrice aussi. Voilà, du beau monde pour cette deuxième partie de Dune de Denis Villeneuve.
It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom.
You dive in.
Yes, it's called swimming.
I don't believe you.
In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides.
Your father didn't believe in revenge.
What if Paul Atreides were still alive?
Have you ever had a dream about your first ride?
Look Don't try to impress anyone. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct. Nothing fancy.
I understand. Nothing fancy.
Alors, faut que je vous parle, et avec plaisir, du film de Christine Angot, Une famille. Je ne sais quel est le rapport que vous entretenez chacun, chacune avec Christine Angot, mais a priori le mien n'était pas extrêmement favorable, je n'ai jamais lu aucun de ses livres, je vous l'avoue. Mais j'avais une perception du personnage qu'elle peut être dans l'espace médiatique depuis 25 ans au moins, en tout cas depuis la publication en 1999 de L'Inceste. J'avais vu ou entrevu ou entendu des extraits d'émissions télévisées, et pas des meilleures à mon sens, dans lesquelles elle intervenait en tout cas assez fréquemment. Et donc j'y allais un petit peu à reculons. Ce film a été présenté à Berlin, et Les Échos de Berlin en février étaient excellents, elle a même obtenu un prix. J'avoue aussi avoir une relation assez favorable, très favorable, même avec le distributeur Nour Film, qui distribue chaque année des films qui me paraissent fort intéressant, voire même remarquable. C'était le cas de L'Arbre aux papillons d'or l'an passé, film qui n'a évidemment rien à voir, mais qui a en commun donc ce distributeur, dont j'apprécie le programme, le line-up comme on dit, et le catalogue. Donc voilà, curiosité suscitée de ma part, de par ces différents critères. J'ai regardé Une famille, je ne l'ai pas vu en salle, je l'ai vu chez moi, sur mon ordinateur, et j'ai été proprement sidéré. Je connaissais quelques éléments, évidemment L'Inceste, qui donne son titre au livre en 1999, et que Christine Angot, jeune adolescente à l'âge de 13 ans, a subi de son père de manière répétée durant des années. Ça vient évidemment alimenter depuis fort longtemps son travail d'écrivaine, depuis L'Inceste évidemment en 1999, mais plus généralement des livres comme Un amour impossible, bien sûr, Le voyage dans l'Est aussi, son dernier livre en date, et c'est dans la foulée de celui-ci vraiment que s'inscrit ce premier film, Une famille, et c'est d'ailleurs lors de la promotion de ce livre en 2021 qu'elle va prendre la caméra, elle va pas la prendre seule, c'est très important de le dire, elle a une toute petite équipe, ils sont trois, Anti-débarque à Strasbourg, où vivait son père et où il l'a violée durant des années, et elle est notamment accompagnée, c'est très important de le signaler, de Caroline Champetier, qui est cette directrice photo très importante dans l'histoire du cinéma contemporain, qui a travaillé notamment avec Jean-Luc Godard, avec Claude Lanzmann, avec Xavier Beauvois, Philippe Garrel, Léo Scarrax, encore récemment, et de manière privilégiée même pour les derniers films. Et Caroline Champetier, c'est vraiment une sorte de binôme. Lorsqu'elle se présente à la porte de l'ex-belle-mère de Christine Angot, qui est une scène extrêmement forte, comme j'en ai pas connu depuis longtemps. C'est d'ailleurs intéressant de signaler que Caroline Champetier a débuté notamment aux côtés de Claude Lanzmann, car il y a un côté, je trouve, dans la rage, et je le dis de manière extrêmement positive, qui est celle de Christine Angot, d'affronter le déni de sa famille, de délier la parole de manière extrêmement provocante, dans le sens vraiment de la susciter de manière y compris violente, qui n'est rien, évidemment, compte tenu de la violence qu'elle a subie depuis si longtemps. Il y a un côté de la rage de Lanzmann, voilà, de faire affleurer la vérité, de le faire sur le fond, sur la forme, et d'y aller vraiment, pour susciter cette parole et expulser ce déni qui a prévalu si longtemps. C'est un film incroyable, dont je n'attendais rien. C'est un film extrêmement pertinent, évidemment, quand on sait l'histoire de Christine Angot, qu'on en est, je pense, assurément, si l'on en est le lecteur, la lectrice. C'est un film qui s'inscrit vraiment dans l'œuvre littéraire et dans l'œuvre tout court de Christine Angot. Mais quand bien même, comme moi, vous n'auriez rien lu d'elle, quand bien même, comme moi, vous n'auriez a priori pas plus d'intérêt pour elle que je n'en avais auparavant. C'est un film qui a d'une grande force simplement sur cette question de l'inceste, du viol, des violences sexuelles et sexistes. Et voilà, d'une problématique ô combien contemporaine et brûlante qui nous touche de près ou de loin tous et toutes, et notamment dans les dernières années. C'est un film d'une grande puissance qui fait une confiance extraordinaire dans le cinéma et dans les moyens qui sont les siens. C'est un film essentiel, je dirais, que je vous invite vraiment à découvrir. Il est programmé cette semaine pour 6 séances et j'évoque une des premières séquences qui est évidemment très très forte, mais le film est émaillé aussi de scènes très fortes et douces et bouleversantes, vraiment extrêmement émouvantes dans le dialogue qu'elle peut avoir avec son ex-mari, le père de sa fille, avec sa fille aussi. C'est extrêmement touchant. Donc le film, faut pas réduire le film à cette violence que peut dégager Christine Angot. Le film est autre chose que cette violence-là. Il dit aussi la libération de la parole nécessaire, et c'est un film, voilà, très fort, et je voulais vous le dire, et je vous invite vraiment à venir le voir au cinéma de Fort-Calquier cette semaine pour 6 séances. Le film de Christine Angot, Une famille.
J'en ai marre de parler de ça. J'en ai marre que mon travail soit envahi par ça. Parce que ça, c'est moi, à la très mauvaise époque. Là, j'ai 13 ans, donc là, c'est le moment où ça commence. Et je sais la pensée qui va avec.
Depuis l'inceste, depuis 1999, c'est-à-dire plus de 20 ans, Christine Angot, parmi tous les écrivains contemporains, est celle qui a subi le plus grand mépris de la critique littéraire. Mais le plus grand mépris.
J'ai quand même entendu mon ministère nous dire, quand mon père est mort, il m'a quand même dit, de toute façon, il a toujours dit que tu fabulais.
Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient. La phrase ne se formait pas. Elle se fracassait sur le vide.
J'ai été celle qui a été, pendant des années, tout pour elle, et elle a été tout pour moi.
Moi, je suis à ta place, quand j'entends.
On s'est trompé, toi et moi, sur notre histoire, on s'est trompé sur ce qui nous unissait.
Depuis le début, voilà.
Elle m'a protégée. Inversion des rôles.
Il y a le nom.
Il y a le nom ?
Tu dis que c'est moi ? Tu dis que c'est moi ou tu sors ? Oui, bonjour, c'est Christine.
Le film jeune public de la semaine, il s'appelle Les Toutes Petites Créatures, et c'est une merveille, ce film. C'est un délice que de découvrir ce programme de court-métrage pour les plus petits à partir de 3 ans. Et le film est constitué de 12 histoires miniatures qui évoquent la découverte, les sensations comme la peur, la joie, la douleur, le bruit, le danger, mais aussi l'éveil, l'entraide, le respect, la discrétion. Et pour ces toutes petites créatures, tout est prétexte à jouer et à découvrir ce qui constitue, ce qui compose leur environnement immédiat. Je pense que les enfants, assurément, vont prendre un grand plaisir à découvrir ce film pour ces petites figurines de pâte à modeler qui, moi, m'ont rappelé Chapi-Chapeau un petit peu, mais c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus rythmé que cela. Et on s'attache très vite à ces toutes petites créatures, et assurément les parents aussi. Donc, Les Toutes Petites Créatures, c'est le studio Artman, le studio britannique qui a réalisé cela, donc c'est extrêmement bien fait. Il est programmé pour 2 séances cette semaine, mercredi à 16h30 et samedi à 16h30 également. Ça dure 40 minutes et vous prendrez assurément un vif plaisir à ces toutes petites créatures. Inch'Allah, un fils, c'est un film jordanien, oui, un film jordanien d'un cinéaste que l'on découvre en France, il s'appelle Amjad Al-Rachid. Moi j'ai découvert le film à la semaine de la critique à Cannes, Alors Cannes et la Semaine de la Critique notamment ont pour vertu, comme d'autres festivals, mais peut-être plus qu'ailleurs, de porter à notre curiosité, à la découverte des films issus de cinématographies de pays extrêmement rares. Je l'ai déjà signalé ici, on a vu l'an passé notamment un film mongol, qu'on a montré d'ailleurs en janvier, on a montré un film soudanais, et puis d'autres films encore dont c'était la première présentation à Cannes pour leur pays, parmi lesquels donc la Jordanie et ce film Inch'Allah un fils à la Semaine de la Critique. Alors le film, son récit est finalement assez... n'a rien d'inédit, sur la forme il est même plutôt classique, mais il y a quand même une complexité psychologique des personnages, et notamment de cette jeune femme qui, je ne révèle pas grand-chose, hein, très tôt au cours du film, dans les premières minutes, se retrouve veuve, jeune veuve de 30 ans, elle a une fille, et en Jordanie, eh bien c'est extrêmement différent de se retrouver veuve avec un fils ou avec une fille. Si cette jeune femme a un fils, c'est le fils et la mère avec elle, en quelque sorte, qui obtient l'héritage et qui peut donc garder son appartement et tous les biens qui étaient ceux de la famille et donc, d'un point de vue légal en Jordanie, ceux du mari. Si c'est une fille, eh bien, c'est la famille au sens large, ce sont les frères, donc les beaux-frères, qui en héritent et qui peuvent se montrer des vautours, quoi, et quitte à laisser cette jeune femme et sa fille complètement démunies, presque à la rue. Et c'est toute cette relation conflictuelle, et c'est le combat de cette femme pour obtenir des droits que raconte ce film, avec une actrice qui est formidable. Elle s'appelle Mouna Hawa, et elle parvient à rendre vraiment palpitant la quête de cette femme et la tension que génère aussi en elle et dans son quotidien pour elle et sa fille cette lutte. Ce film-là, donc, jordanien, c'est le film dont la belle affiche fait la couverture du programme en cours, Inch'Allah un fils, de Amjad Al-Rachid. Il est programmé pour 5 séances cette semaine au Bourget.
Adnan, yalla oum.
Papa, انت وقت راجل. انت مؤمنة وقوية. وهيك الله بده صح؟
في حياتك حبيبتي. يرحم فقدته.
كنت خايفة إنك تطلبي كمان أيامات إجازة
حبيبتي
في آخر 4 دفعات عدنان ما دفع ليهم
بس أنا ما بدي أبيع البيكوب
ما بتعرفيش تسوق عليه
إذا بدك إشي أنا موجود أنت عارفة
البيت.
يعني احنا اذا طلعنا من البيت ما في مكان تاني نروح عليه وين بدنا نعيش
ولا ويا مرت اخوي وين رحت انا
هذا بيتي ومش بايعته وغير هيك ما عندي
اهل الزوج المتوفى لهم نصيب من الميراث عصبة في حال الزوج لم ينجب مولود ذكر من زوجته
سيدي انا حامل
On en vient aux quatre films qui font l'objet d'une séance spéciale cette semaine. On commence avec Jean Eustache. Vous savez qu'on a entamé en octobre un cycle consacré au cinéaste français que moi je considère comme un des plus importants de l'histoire du cinéma. Donc chaque film est une hypothèse, une proposition singulière, une tentative aussi d'emmener le cinéma et nous avec dans une direction inédite. Alors c'était le cas notamment de, vous l'avez vu en décembre, de Numéro Zéro, qui est un film absolument inédit dans l'histoire du cinéma jusqu'alors, de La Maman et la Putain. Mes Petites Amoureuses, plus classique en apparence, est un film comme on en a rarement vu sur l'adolescence, sur le souvenir, le temps qui passe. Et puis on vous a montré ce film incroyable le mois dernier qui s'appelle Une sale histoire. Et on l'avait dit alors, Une sale histoire ouvrait dans le parcours de Jean Eustache une autre période, une période hélas terminale, puisque Jean Eustache est mort à 42 ans à peine en novembre 81. Et après l'échec de Mes Petites Amoureuses en 74, il a eu bien des difficultés à produire les films suivants, ce qui renforce leur caractère plutôt expérimental et lui confère aussi, cela dit, une liberté incroyable. Donc, Une sale histoire était un prototype et les films qui suivent le seront aussi principalement. Et on termine donc ce cycle Stash avec deux films qui s'inscrivent vraiment dans la continuité d'une sale histoire, qui sont deux films, là encore, où un homme ou une femme d'ailleurs prend la parole. Le premier de ces films, c'est Le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Il dure 34 minutes, puisque donc deux courts-métrages viennent composer cette séance spéciale dernière du cycle Jean Eustache. C'est samedi 30 mars à 19h30. Le tout va composer un programme d'à peine une heure. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch, on retrouve cet homme qui était le deuxième à raconter une sale histoire, Jean-Noël Pic, un grand ami, un homme à l'éloquence extrêmement captivante. Et ici, il commente le triptyque, et notamment le troisième volet du triptyque de Jérôme Bosch, Le Jardin des délices, qui est consacré à l'enfer. Et il le fait de manière extrêmement singulière, drôle, captivante, elle aussi. Et c'est un film étonnant qui a été largement composé aussi au montage, et là encore enregistré dans des conditions assez singulières, la nuit, dans un salon. Ce film, que l'on porte ou pas un intérêt à Jean Eustache ou à Jérôme Bosch, sans doute vous intéressera au plus haut point. On est ravis de vous le montrer parce que c'est un des films vraiment de Eustache qu'il était très très rare de pouvoir simplement voir chez soi, en salle, qu'importe. Mais voilà, l'occasion vous en est donnée. Et à la suite de celui-ci, on verra le tout dernier film de Jean Eustache, qui est un film incroyable. Il s'appelle « Les photos d'Alix ». Il dure 18 minutes, film de 1980, donc quelques mois avant la mort de Eustache. Avec Le Jardin des délices, donc, c'est le diptyque des deux derniers films de Eustache que l'on vous propose. Et là encore, quelqu'une en l'occurrence, la photographe Alix Cléo Roubaud, commente ses propres photographies qu'elle montre à Boris Eustache, le fils alors adolescent de Jean Eustache. Et vous allez voir l'exercice de montage, là encore, que représente ce film, et combien Eustache se joue de l'harmonie, de la connexion entre image et son, et vient vraiment susciter en nous un dérèglement des sens, comme aurait dit Rimbaud, et combien l'audition, combien l'écoute peut remettre en cause et en question les images que l'on voit, et inversement. Mais tout cela est fait de manière extrêmement subtile, et c'est un film là encore très troublant, et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à cette grande photographe qui était Alix Cléo, épouse de Jacques Roubaud, le poète, qui lui a largement rendu hommage par la suite, avec notamment un livre de poèmes qui s'appelle « Quelque chose noir », cette expression est celle-là même d'ailleurs d'un travail que menait Alix Cléo Roubaud quelques temps avant sa mort. Elle est morte à 31 ans. C'était une photographe canadienne qui vivait en France, qui avait d'ailleurs étudié la philosophie à Aix-en-Provence. Et c'est une belle occasion ici de, à la fois de voir le film de Eustache, de prendre connaissance du travail d'Alix Cléo Roubaud, à qui plusieurs expos ont été consacrés dans les 10 dernières années. On a redécouvert ce travail photographique et son journal aussi qui a été réédité, qui est très beau. Et par ailleurs, ce film, le dernier de Jean Eustache, a obtenu de manière posthume, pour Jean Eustache, le César du meilleur court-métrage de fiction en 1982. Voilà, Jean Eustache a obtenu, voilà, post-mortem, un César, celui du meilleur court-métrage. C'est le dernier film de Jean Eustache, et c'est donc la fin de ce cycle qu'on a été très heureux de vous proposer. Un autre cycle en cours, celui de cet hiver que nous organisons avec Pascal Privé, tourne autour de Anastasia Lapsuis et Marcou les Mouscalios, ces cinéastes du Grand Nord qui ont donné lieu déjà à deux très belle soirée les 25 janvier et 29 février. On vous avait montré des films rares mais qui avaient été quand même un peu diffusés en France en leur temps. Les 7 chants de la toundra, Le voyage perpétuel, 11 images de l'homme à peine. Mais cette troisième soirée qu'on leur consacre est composée de deux films totalement inédits. Et c'était vraiment une chance extraordinaire de simplement voir en France, et a fortiori en salle et dans des versions restaurées, ces deux films magnifiques qui nous permettent aussi de porter un autre regard sur le travail, notamment de Marcou les Mouscalios, puisque le premier donc s'appelle de manière absolument magnifique « Tel un renne le long de la voûte céleste ». C'est le premier long métrage de Anastasia et Marcou ensemble. Il date de 1993, il est tourné principalement en 1990, quelques mois avant la fin de l'URSS. Vous allez retrouver plusieurs scènes filmées à une autre époque de la vie des Nénettes que l'on a pu voir dans Le Voyage Perpétuel ou dans Sept Chants de la Toundra. Mais vous allez les voir ici en couleur et ça change beaucoup notre perception et aussi révèle une beauté extraordinaire de ces scènes a priori extrêmement simples. Ce sont les gestes, c'est le travail, c'est les gestes de la survie au quotidien du peuple Nénette. Vous allez voir, c'est très très beau. C'est tourné évidemment à l'époque en pellicule, bien sûr, et aujourd'hui ces films ont été restaurés, sous-titrés en français. Ça, c'est le premier qu'on vous montrera à 18h le jeudi 28 mars, et à 20h30, vous pourrez voir un film, là encore, totalement inédit, qui est un film réalisé par Marcou seul en 1985, c'est avant sa rencontre avec Anastasia Lapsui, et qui tourne là encore, puisque on l'a vu dans le portrait que Pascal Privé a tourné de Marcou et d'Anastasia, la passion que Marcou particulièrement à pour l'art au sens artisanal, la fabrication de statues, le travail du bois, le voyez, et combien elle révèle non seulement les individus, mais un peuple entier. Et il s'intéresse ici à un artiste peintre, Joël Strom, qui est sourd-muet, et on va le voir dans son rapport à son art. C'est un très beau film, ce film-là s'appelle La Nourrice Bleue, et c'est une chance, je vous le redis, de voir ce film. Ce sera le 28 mars à 20h30. On aura une soirée donc avec Pascal Privé qui présentera les deux films. On en discutera avec lui à l'issue des projections. Et un buffet vous sera offert entre les deux séances. Donc jeudi 28 mars à 18h et à 20h30. Les deux films seront diffusés quelques jours plus tard, le lundi 1er et le mardi 2. Je vous laisse regarder la grille horaire. Et sur cette belle semaine, je vous dis à bientôt.